Europe 1. Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Cette histoire commence en Algérie, quand elle était française, mais plus pour très longtemps. Les Acariès sont des pieds noirs, des Européens d'Algérie. Et là-bas déjà, à Bab El Oued où ils vivaient, la boxe était au cœur de leur vie. Le père Acariès était chauffeur de taxi, mais à côté, il organisait des combats de boxe. Et les deux gamins fréquentaient les salles tout petits. Je vous les présente. Ce sont eux les héros de cette histoire. Michel et Louis. À la veille de l'indépendance de l'Algérie, Michel a 13 ans et Louis 8 ans. Dans quelques semaines, leur vie va basculer. Est-ce que le père Acariès a participé aux événements, comme on disait? Oui, bien sûr. Comme tous ceux de Bab El Oued, du côté de l'OAS, bien entendu, de l'Algérie française. Combien de fois Michel et Louis l'ont vu décrocher son fusil et partir je ne sais où pour faire je ne sais quoi? La sale guerre. Et Michel lui-même, à 13 ans, est allé peindre sur les murs, avec un gros pinceau, « La France restera ». Il l'a fait. Mais maintenant tout ça, c'est fini. Nous sommes le 18 mars 1962, le général de Gaulle vient de signer à Évian, en Haute-Savoie, l'indépendance de l'Algérie. Les pieds noirs ne savent pas trop ce qu'ils vont devenir, mais ils s'en doutent, on va les ficher dehors. Les semaines passent dans un entre-deux, et puis le 27 mai, le père Acariès part travailler, et le soir, il ne rentre pas, raflé par les gars du FLN. Et là, l'angoisse jusqu'à ce que le téléphone sonne. La mère va répondre. C'est un volontaire de la Croix-Rouge.
Internement ? Expulsion imminente ? Lui amener des vêtements chauds ? Où ça ?
Le père a été interné dans un camp, pas très loin. Il lui faudrait des vêtements chauds. Alors ils partent tout de suite, à quatre avec un oncle, dans la 4 chevaux. Et ils arrivent au camp de Beni Messous. Débarrassement, une grande clôture avec des miradors, des hommes en uniforme et derrière des rouleaux de barbelés. Le père prisonnier. Ils échangent quelques mots sans pouvoir se toucher. L'oncle lui fait passer un petit paquetage et là, un garde arrive. Vous ne pouvez pas rester là.
Mais où il va, papa? On l'emmène où?
T'inquiète pas, mon fils, viens. Viens, on le reverra bientôt, papa.
Et après, retour à Bab El Oued, ou ce qu'il en reste. Le quartier est en train de se vider. À l'approche de l'été, il n'y a presque plus personne. Ils sont tous partis. Et le 11 juin, Madame Acariès et ses deux enfants, à leur tour, quittent Bab El Oued pour l'aéroport de Maison-Blanche. Ils ont réussi à avoir des billets d'avion. Et là, ils attendent dans une sorte de chaos, deux jours et une nuit. Dans son livre, Michel écrit « Des gens qui se connaissaient, s'agglutinaient, se bousculaient, se piétinaient, les bras chargés de valises, la cohue se mêlait au chaos. »
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie, se traîne sans raison.
Et la famille atterrit à Orly-Sud le 12 juin 1962. Et personne ne les attend. Personne. Il n'y a personne pour les accueillir. Ils ne savent pas où aller. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les autres, ils attendent. Ils s'installent sous un escalier et ils attendent. Et là, un couple s'approche.
Bonsoir. Seriez-vous Madame Acariès?
Oui.
Ah, enfin. Venez avec nous. Les enfants, on se lève, on y va.
Ils montent dans une TS noire et les voilà à Paris. La voiture s'arrête près du boulevard Haussmann.
Bougez pas, on revient. Avec une surprise.
Sacrée surprise. C'est le père. Il passe la tête par la fenêtre de la DS. Il était déjà à Paris.
Et les voilà donc dans un petit hôtel de la rue d'Argenson, à quatre dans une chambre, avec le père qui dit
« C'est juste pour un temps, on va se refaire, on va retourner chez nous en Algérie, on va se retrouver là-bas, tous ceux qui sont disséminés, on va repartir au combat »
Est-ce qu'il y croit lui-même? En tout cas, le 5 juillet, trois semaines après l'arrivée à Orly, quand l'Algérie proclame son indépendance et qu'à Oran, des dizaines et des dizaines de pieds noirs qui étaient restés se font massacrer, rentrer, faut pas rêver, faut plus rêver. Alors le père se met à la recherche d'un logement et d'un boulot. Et la mère se lance dans les formalités administratives. Et il en faut, hein, de la paperasse quand on est français mais pas de métropole. Ça passe par le centre d'accueil des rapatriés. Il faut trouver des écoles pour la rentrée des deux garçons, et puis des papiers, des certificats, de la paperasse, à n'en plus finir. Et le père finalement trouve un logement, suffisamment grand pour accueillir la famille élargie, au petit Clamart, les tontons, les tatis, les cousins. Et puis vers la mi-juillet, voilà que dans la rue, il tombe nez à nez sur Edgar Boudboul. Edgar Boudboul, le commissaire du 5e arrondissement d'Alger. Ah ça alors, Edgar Boudboul, ils en ont organisé tous les deux des combats de boxe amateur. Alors ils prennent une anisette et l'autre lui dit « Tu cherches du boulot ?» Et voilà comment le père se retrouve chauffeur-livreur. Et du coup, comme ça va mieux, nouveau déménagement à Sarcelles-Sablon, dans l'un de ces nouveaux HLM qui viennent de se construire. De belles barres de béton. Le premier hiver, pas de chance, hein. Il fait un froid polaire dès le mois de novembre. Pour la famille Acariès, c'est le choc thermique. La neige, les rues bloquées, les écoles fermées à cause du froid. Et avec ça, les murs de l'appartement tout neuf qui suintent d'humidité. C'est rude quand on a grandi à Bab-el-Oued. Le petit Louis est à l'école primaire des Sablons. Michel l'amène tous les matins en allant au collège et il le récupère tous les soirs. Et un jour, il arrive avec un billet de renvoi dans la main. Trop bagarreur, c'est écrit dessus. Le boxeur est en train de pointer. Mais pourquoi est-ce que Louis se bat? À 8 ans, pour le plaisir de la chicaille? Pas vraiment. Il se bat parce que, dans la cour de son école de Sarcelles, on se moque de lui, de sa peau plus mate que les autres, et de son accent.
Hé, hey, l'arabe! Hé, hey, le bougnoul! Le rapat! OASSS! OASSS! Et le bico! Tu viens manger le pain des Français?
Et lui? Lui, il répond avec ses poings. Dans son livre, Michel écrit « Pied noir, autrement dit pied sale, autrement dit va-nu-pied, autrement dit sale métèque. La France des années 60 était aussi anti-arabe que la France des années 40 était antisémite. Nous étions des arabes aux yeux de l'amalgame. On vivait avec ça. » Alors c'est décidé, ils ne resteront pas à Paris. Et un jour, le père part en éclaireur à Marseille. Ce qui est une manière de se rapprocher au plus près de l'Algérie interdite. Et il s'achète une plaque de taxi à Marseille. Et toute la famille va s'installer dans un HLM des quartiers nord, au 10e étage. Et la boxe, alors? La boxe, c'est compliqué. La boxe, c'était l'Algérie. Le père ne veut plus en entendre parler. Seulement voilà, comme dit Michel, la boxe s'est entortillée en lui comme un chèvrefeuille à son tuteur. Et la sève a fini par remonter. Michel a maintenant 15 ans et on lui parle d'une salle de boxe dans le quartier d'à côté, à Saint-Marcel. Alors il y va.
Tu cherches quoi, Bino? Je voudrais m'entraîner, monsieur. T'entraîner? Et tu débarques d'où avec ton sac? De Bab-el-Oued, monsieur. Hé, hey, ça fait un sacré chemin.
L'homme le regarde de haut en bas.
Les vestiaires, c'est par là-bas. Tu vas te faire une idée, pour les tarifs et les horaires, c'est marqué sur la porte. On paye avec zéro retard, et on laisse l'endroit plus propre qu'on l'a trouvé. Ok, enculé ?
L'homme s'appelle Jean Molina, et lui aussi c'est un pied noir. Il vient de Sidi Bel Abbès.
À partir de ce moment-là, Michel vient le voir une fois par semaine, tous les mercredis. Et à chaque fois, il lui dit
« Un jour, je vous emmènerai mon frère. Vous verrez. »
Pour l'instant, le petit Louis joue au football. Mais à chaque fois que les deux frères sont ensemble, c'est bien à la boxe hein, qu'il joue. Et il va s'écouler comme ça 3 ans. Et aux vacances de Pâques 1968, Jean Molina, Jeannot, organise un gala de boxe. C'est enfin l'occasion d'emmener le petit Louis.
Eh bien, le voilà, le petit frère dont on me parle depuis tellement longtemps.
Tu as quel âge ?
14 ans, monsieur.
14 ans ? Eh bien, mets-toi en garde, tiens, que je vois ce que tu vaux. Bien, bien, bien. Bouge encore sur tes jambes. Bien, bien. Les bras au corps. C'est bien ça.
Louis vient de taper dans l'œil de Jeannot. Et il est d'accord pour qu'il vienne tous les mercredis, avec Michel. Mais il lui faut absolument une autorisation parentale. Et ça, c'est pas gagné. Et donc Michel signe à la place de son père. Et ils y vont tous les mercredis. Et puis un jour, il y a une compétition, et Louis explose ses adversaires, un par un. Et qui est-ce qu'il aperçoit soudain, au fond de la salle ? Le père qui les regarde, et qui disparaît. Et le soir, le père les attend, et à la fin du dîner, il leur parle.
Bon, on va mettre les choses au clair, Louis. Ça te plaît, la boxe ?
Oui, papa. Oui, j'aime ça.
Et toi, Michel ?
Oui, oui, c'est là, c'est en moi.
Bon, très bien. Mais maintenant, tout passe par moi.
Il décide de s'occuper d'eux. Enfin, surtout de Louis, parce que Michel, il a 18 ans, et comme il le dit lui-même, à cet âge-là, le degré d'émancipation se mesure au taux de testostérone. Les filles, les champs de course, les bistrots, les boîtes de nuit, Michel file un mauvais coton. Il croise Francis le Belge, né dans le quartier d'en face, Jackie le Mat, Antoine Guérini, Tani Zampa, tout le gratin des Marlous de Marseille. Alors que Louis, pendant ce temps, Louis continue de s'entraîner. Il se professionnalise. Le bagarreur des quartiers commence à laisser place à un vrai boxeur. Louis a maintenant 16 ans. Et il va affronter son premier adversaire, un Algérien de 26 ans. Il a gagné 5 des 6 premiers combats de sa vie. Donc c'est pas gagné. Et pourtant, le soir du combat, Louis monte sur le ring, le gong retentit et Louis fonce sur son adversaire. Bim, une droite et il a gagné. Et après ça enchaîne. Champion de Provence amateur, les championnats de France universitaires, 5 combats, 5 victoires. Et la première médaille avec le ruban tricolore. Michel écrit « Pour la première fois, la France nous reconnaissait. » Et puis c'est Marseille. Les gens, pas forcément très fréquentables, se mettent à tourner autour du père.
« Il est bien ton fils. On peut en faire quelque chose ?»
Le père sent que ça tourne vinaigre. Il veut protéger ses fils et donc il dit à Michel
« Tu vas à Paris ? Tu commences à prendre des contacts ?» Et puis dans un an, je t'envoie Louis. Ici, ça va mal finir.
Et donc, à l'été 1970, Michel, qui a 22 ans, débarque à Paris, dans une chambre de bonne près de la gare Saint-Lazare. Il essaye l'informatique, il essaye aussi la banque, guichetier à la BNP, mais il a la bougeotte. Alors il décide de devenir taxi, comme son père. Et il s'achète une belle 404 rouge. Et il fait le taxi de 4h du matin jusqu'à midi. Et ça lui laisse le temps, tout le reste du temps, pour aller sur les champs de course, claquer son argent. Le père l'appelle tous les jours, et il lui ment, bien sûr.
Ah, je te jure, papa, je bosse. Oui, ça marche bien. Non, je déconne pas.
Et donc, comme prévu, à l'été 1971, Louis, à son tour, débarque à Paris. Et le père a un contact. Un Marseillais lui a dit d'aller voir un certain Jean Bretonnel. C'est le père, bien sûr, qui va le voir, dans une salle au deuxième étage de la rue du Faubourg Saint-Denis. Jean Bretonnel est une star de la boxe de l'après-guerre. Il a un accent de titi parisien, il vouvoie ses boxeurs. Oui, monsieur.
Bien. Eh bien, écoutez, on va s'occuper du petit, hein? On va commencer par lui trouver un travail. Monsieur Bretonnel, je vais être clair, hein? Louis, sa famille, elle s'en occupe. Il n'est pas orphelin. Nous, on vient parler avec vous de boxe et que de boxe. D'accord, monsieur Lacarriez. Pas de problème. Alors, je suis d'accord pour vous confier mon fils, mais vous ne prendrez aucune décision sans m'en avertir. Hein? Je serai présent à tous les combats.
Jean Bretonnel accepte, et les deux frères emménagent à Noisy-le-Sec, en banlieue parisienne. Michel continue de faire le taxi, mais il ne rate pas une minute des entraînements de son frère. Il est toujours là, dans un coin, un peu comme un meuble. Un jour, Jean Bretonnel le fait boxer en levée de rideau d'un combat entre Jean-Claude Boutier et Carlos Monzon. Il aurait pu se croire arrivé, mais soyons réalistes, il n'a que 19 ans. Il est beaucoup trop jeune pour devenir néo-professionnel. Alors est-ce qu'il ne serait pas temps qu'il fasse son service ? Il va le faire au bataillon de Joinville, à Fontainebleau. Et tous les jours, avec son taxi, Michel va le chercher et l'emmène s'entraîner à la salle du Faubourg Saint-Denis. Tous les jours. Pendant plus de 2 ans, Louis s'entraîne. Il s'abîme, mâchoire fracturée, tympan crevé. Il encaisse. Et Michel passe son diplôme de soigneur qui lui permet maintenant d'avoir le droit d'être au coin du ring, auprès de son frère. Et arrive le soir du 12 janvier 1978, le premier combat pro Salvagram à Paris. Louis va se battre pour le titre national de poids welter. Avant la rencontre, il reçoit un télégramme de la veuve de Marcel Cerdan. « De nouveau ce soir, mon cœur bat plus fort. » Et il paraît que Marcel Cerdan, junior, est dans la salle. Les 3 premiers rounds, l'adversaire domine. Et puis à un moment, Louis Acariès trouve une ouverture, gauche, droite, suivi d'un crochet court, il a gagné. La Marseillaise retentit pour un Acariès. Louis est champion de France des welter. Et là, Michel arrête le taxi pour une brasserie à Noisy-le-Sec, la fortune du pot. S'en suivent quelques fâcheries avec Jean Bretonnel, qui s'octroie quand même 30% de tout ce que gagne Louis. Les deux garçons se mettent en ménage, et du coup, Louis se relâche un peu et signe quelques défaites. Bref, arrive le mois de mars 1981. Louis a obtenu le droit de défier Marianne Bénès pour le titre de champion d'Europe des welter. Ça se passe sous le chapiteau Jean Richard à la porte de Pantin.
Acariès, pendant la première partie du combat, est resté groupé, bougeant beaucoup, esquivant parfaitement et allongeant son direct du gauche. C'était la seule manière de laisser passer l'orage face à Bénèche qui avance sans cesse et entreprend dès le coup de gong un véritable travail de démolition. À la mi-combat, Acariès était mené de 4 points à mon pointage personnel. C'est à ce moment qu'il s'est libéré, suivant à la lettre les conseils de ses hommes de coin. Doucement, le Yougoslave a perdu son avantage, étant même compté à la 11e reprise. Les 2 arcades sourcilières ouvertes, Benesch jetait alors tout ce qui lui restait de force. C'était insuffisant pour résister à Acariès qui boxait superbement.
Louis Acariès est champion d'Europe. Depuis Jean-Claude Boutier, Roger Ménétré et Gratien Tonnat, ça faisait 4 ans qu'un Français n'avait pas décroché le titre. En revanche, la collaboration avec Jean Bretonnel s'arrête là. Sa commission de 30% est devenue insupportable et inacceptable. Et en octobre 1981, Louis Acariès part s'entraîner aux États-Unis. D'abord seul, mais pas longtemps. Le père et Michel débarquent un mois après, et les voici à Las Vegas, le temple de la boxe. Un Marseillais les a mis en contact avec l'entourage de Frank Sinatra, un certain Joe Rizzo, alias Joe Labalafre, qui les accueille dans le hall de l'hôtel César Palace. Sinatra lui-même, à la fin d'un concert, promet de devenir le parrain de Louis. Alors le père et Michel rentrent en France rassurés. Et ils l'appellent, bien sûr, régulièrement. Écoute, ça va. Je commence à m'y faire.
Tes sparring, ils sont comment?
Ah, c'est le top. C'est des malades. Ils pensent qu'à te casser la tête. Seulement voilà, le temps passe et Louis n'a toujours pas combattu. Comme dit Michel, les promesses de l'automne se sont perdues dans les mirages du désert. Et donc, fini Las Vegas et retour en France. Où Michel lui-même, va lui monter un plateau. C'est la première fois que le frérot organise une rencontre. Et pas la dernière. Elle a lieu en janvier 82 à l'hippodrome de Pantin, face à Oscar Alvarado, double champion du monde 8 ans plus tôt. Et Louis l'emporte en 9 rounds. Les Zacariès travaillent enfin pour eux. À partir de ce moment-là, Michel se met à organiser des combats à l'américaine, comme il l'a vu à Las Vegas. Et là, je vais aller un peu vite, passer quelques épisodes, notamment un titre de champion d'Europe qu'il récupère pour aller directement en 1984, où l'on s'apprête à inaugurer à Paris le Palais Omnisport de Paris-Bercy. 15 000 places, faut les remplir. Et là, Michel a une idée. Organiser un combat pour l'inauguration entre l'ancien champion d'Europe des poids moyens, Simpson, et le nouveau, Louis Zacariès. La rencontre est annoncée pour le 25 février 84. Toutes les stars sont là. Belmondo, Mireille Darc, Julien Clerc. Louis monte sur le ring à 23h20. Et à minuit, comme dit Michel, il est redevenu citrouille. Il a perdu. Il a perdu son titre de champion d'Europe des moyens. Ou plutôt, on le lui a volé. Enfin, c'est ce que pense Michel, l'arbitre. Bref, il a perdu. Jacques Chirac, le maire de Paris, vient les réconforter. Le jour où vous ferez le championnat du monde, faites-moi signe, je vous donnerai le Parc des Princes. Le championnat du monde au Parc des Princes a lieu le 1er juin 1985, en direct sur Canal+, et sur NBC aux USA. 12 000 personnes dans les tribunes. Ça fait 26 ans qu'un Français n'a pas décroché un titre de champion du monde de boxe. Lino Ventura est là. Richard Berry, Richard Anconina, Omar Sharif. Et sur le ring, face à Louis Zacariès, le tenant du titre, Carlos Santos. Dans son livre, Michel Zacariès écrit « Ce match me hante encore. J'aurais peut-être dû tout annuler. » La rencontre dure 15 reprises, et pour Louis, c'est une raclée.
On ne savait pas grand-chose de ce Carlos Santos, sinon qu'il ne comptait qu'une seule défaite en 30 combats professionnels. On le connaît mieux aujourd'hui, et on peut l'affirmer, Carlos Santos est un champion du monde très présentable.
Et comme il l'avait prévu en cas de défaite, Louis Zacariès a déclaré après le match qu'il allait arrêter sa carrière sportive.
Depuis ce combat, Louis Zacariès n'est jamais plus remonté sur un ring. En revanche, Michel, lui, a poursuivi son sillon. Il est devenu l'un des plus grands organisateurs de boxe de la planète, en organisant plus d'une centaine de championnats du monde, en Europe et aux États-Unis.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui les 30 premières années au fond de la saga des frères Zacariès, Michel et Louis. Michel, l'organisateur de boxe, et Louis, le boxeur, tiré de l'autobiographie que vous publiez, Michel Zacariès, chez Flammarion, Pieds-Noirs.nu, de Babeloued à Las Vegas. Co-écrit d'ailleurs, je le signale au passage, avec le journaliste Pierre Ballester. Je voudrais qu'on retourne en Algérie, à Babeloued. On sent une immense nostalgie de Babeloued,
bah oui.
Qui ne vous a pas quitté
non, c'est...
50 ans après, 55 ans après.
Absolument, j'y vis encore.
À ce point-là ?
À ce point-là, oui. À ce point-là. Et puis j'ai eu la chance, le privilège, grâce à Brahim Asloum, de retourner en Algérie 46 ans après.
Et vous êtes allé à Babeloued ?
Oui, absolument. Bah, c'est la première chose que nous avons faite, Louis et moi, quand l'avion s'est posé sur l'aéroport Boumédiane, anciennement Maison Blanche.
Ouais.
En arrivant à l'hôtel Saint-Georges, la première des choses que nous avons faites, c'est de ne pas prendre possession de nos chambres, mais d'aller directement à Babeloued à 22h. Ouais. Et ça n'a pas été facile pour les gens qui sont venus nous recevoir, parce que Bab El Oued était devenu un peu le fief...
Des islamistes,
hein. Oui, complètement. C'était... Ils nous ont répondu, mais on ne peut pas y aller, c'est le fief des barbus maintenant. À cette heure-là, c'est pas facile. J'ai dit, il n'en est pas question, on descend.
Vous avez retrouvé quoi, les odeurs?
On voulait tout retrouver, Louis et moi.
Et
pendant tout le parcours de l'hôtel Saint-Georges à la cité des Vieux Moulins, cité où nous avons grandi, où nous sommes nés, où nous avons grandi, ben on s'interrogeait du regard. Louis me disait, mais tu te souviens de ça? Ce qui m'a estomatiqué, c'est que Louis, à 8 ans...
Il se souvient des trucs.
Il était marqué autant que moi, sinon plus.
Alors, vous racontez que, naturellement, vous étiez Algérie française, que quelque part, c'est absolument compréhensible. Est-ce que votre père, d'abord, a cru, sincèrement, qu'une reconquête était possible, une fois rapatrié en France?
Oui, parce que il n'était pas question que de penser que l'Algérie n'était plus française. On nous arrachait, nous étions arrachés, nous étions déracinés. Je me souviens de mes années scolaires en Algérie, et la première chose que l'on faisait le matin à 8h, en rentrant en classe, c'était la Marseillaise, au tableau moral, et puis c'était la France, la France patrie. On ne connaissait que ça. Donc, étant né là-dedans, on ne pouvait pas imaginer qu'on soit coupé de ce monde-là dans lequel nous avons baigné jusqu'à présent.
Le temps passant, vous avez accepté l'indépendance de l'Algérie?
À notre corps défendant, obligatoirement, oui.
Mais pas plus qu'à votre corps défendant?
Oui, pas plus, parce que même maintenant, je pense que ça ne s'est pas encore cicatrisé. J'y pense journellement.
Tous les jours?
Tous les jours.
Quand votre père décide de ne plus entendre parler de la boxe en arrivant en métropole, j'ai l'impression qu'il se punit lui-même.
Complètement, il se punit, et il est puni parce que cette guerre d'Algérie, parce que ce traumatise, il est traumatisé. Donc il ne veut plus entendre parler de ce passé de boxe, et Louis et moi, et surtout Louis, l'avons contraint, ok, à replonger dans ce monde, parce que il y a été contraint et
il vous a remercié.
Oui, il nous a conduit jusqu'à la fin de ses jours. C'est lui l'organisateur, c'est lui le complice, c'est lui l'instigateur.
Alors il y a un passage très intéressant, c'est votre arrivée en métropole. Ce moment où Louis, mais si c'est arrivé à Louis, ça a dû vous arriver à vous aussi, se fait traiter d'arabe. On comprend, enfin d'arabe, de bougnoul, de picot, tu viens manger le pain des Français.
Oui, de tous les noms d'oiseaux.
Ouais, etc. Du coup, on a l'impression que sa carrière de boxeur va être une sorte de revanche.
En quelque sorte. Et puis j'en veux pour preuve que le jour où il est devenu champion de France à la Salvagram, il y avait un millier de pieds noirs, il y avait les drapeaux bleu, blanc, rouge, mais sur le drapeau bleu, blanc, rouge, il y avait deux pieds noirs inscrits. Ça, c'était la marque des pieds noirs. Nous étions pieds noirs, mais français avant tout. Bleu, blanc, rouge.
C'était terrible, cette expression pieds noirs, alors, qui est une expression que les pieds noirs ont choisie eux-mêmes, hein.
Donc,
ils ne peuvent la reprocher à personne. Mais quand vous êtes arrivé en métropole, en fait, on a confondu pieds noirs et pieds sales.
C'est ça. Donc, on était plus que vexés, frustrés, on était très en colère, et on avait cet esprit, évidemment, cet esprit belliqueux.
C'est donc d'être attaqué en tant que rapatrié qui fait que Louis a cette rage qui monte, va devenir le moteur de sa carrière de boxeur.
On peut dire comme ça.
Ouais.
Oui, on peut dire comme ça. Ça a certainement influencé dans le cours de sa carrière, certainement, oui. Dans son caractère, ça l'a forgé.
Alors ce qui est très marrant, c'est que donc Louis, il a 8 ans, vous en avez 13, vous l'écrivez vous-même dans votre livre, vous n'avez pas de talent pour la boxe.
Non,
vous,
enfin, moi pas du tout.
Et Louis en a un.
Oui.
Et ça tient à quoi ça?
Ah ben je crois que c'est
inné. Physique.
C'est inné. D'ailleurs, quand mon père s'est aperçu de la qualité de Louis, il a compris qu'il tenait là un réel champion, et c'est pour ça qu'il a pris des choses en main, et qu'il nous a accompagnés jusqu'à son départ.
Oui. Alors vous concernant, Michel, une fois arrivé en métropole, le temps passe un peu, et c'est ce moment où vous arrivez à Marseille, de cette histoire de testostérone là qui prend le dessus sur tout le reste, bon, quelque chose qui est assez partagé, hein, par les garçons de 18 ans, mais on a quand même le sentiment que vous risquez de tourner mal, sérieusement.
Mais Maintenant, on parle des quartiers nord de Marseille. Mais ils existent depuis longtemps. Et nous, nous y habitions. Nous étions dans les quartiers nord. Pour ne citer que mon quartier, c'était La Rose.
Oui.
C'est le 13e arrondissement de Marseille.
Oui.
Et donc, c'était multi-race, multicouleur, multi... C'était déjà à l'époque. Et puis, c'était pas facile. Il fallait se frayer le chemin. Voilà, donc, on a fréquenté toutes sortes de gens, sur les bancs de l'école, et puis en dehors de l'école, évidemment.
Donc, vous avez vraiment fréquenté les gens de la French Connection?
Oui.
Oui, donc Francis le Belge, Guérini, Jacky le Mat.
Oui, mais c'était tout des gens que j'ai connus, que nous avons connus, que nous avons fréquentés, et que malheureusement Francis le Belge lui est décédé. Mais les autres, je les vois très souvent et encore pas il y a pas très longtemps à Marseille, bien sûr.
Tanis Zampa aussi.
Ah oui, mais lui aussi il est décédé.
Lui aussi, il est mort. Mais vous l'avez connu aussi.
Oui.
Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas entré dans leur business
de trafic d'héroïne? J'ai l'impression que ce qui nous a fait dévier de ce chemin, c'est le sport. Le sport grâce à Louis.
Oui.
Ou par rapport à Louis, comme on voudra. Et surtout, mon père qui était un visionnaire. Il avait senti que si on restait à Marseille, ça risquait de tourner à un endroit où il ne voulait pas mettre les pieds.
Au fond, si votre père n'avait pas veillé sur vous comme il a veillé sur vous, vous ne seriez pas ce que vous êtes devenu.
Très certainement, hein? Très certainement.
Vous lui devez beaucoup.
Énormément.
Mais sur le moment, vous vous engueuliez avec lui?
Oui, on comprenait pas. Parce que il voulait nous guider nos pas. Il guidait nos pas. D'ailleurs, la première des choses qu'il a faites, c'est de nous envoyer faire nos études. Moi, il m'a envoyé continuer mes études le plus loin possible. C'est ce que j'ai fait. Et puis même Louis, il a passé son BEPC. Après son BEPC, il a passé un diplôme de comptabilité. Parce qu'il prévoyait qu'il fallait qu'il gère sa carrière. Donc, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, il disait que la comptabilité, c'était important. C'était la gestion.
Alors vous, en parallèle de votre passion pour la boxe, j'ai l'impression que vous avez toujours une passion aussi pour les chevaux.
Ah oui, et Louis aussi. Oui,
mais c'est un truc de pied noir, ça? Ou c'est un truc de Michel Acariès, hein.
Oui. On a toujours trempé dans le milieu des chevaux, absolument.
D'abord
comme joueur, et ensuite comme participant, puisque on a eu la chance avec Louis d'être propriétaire de beaucoup de chevaux, dans toutes les disciplines, trot, galop, obstacle. Voilà.
Alors, vous racontez la rencontre qui a été déterminante avec ce Jean Bretonnel. C'est un Marseillais qui a dit à votre père, il faut que t'ailles voir à Paris Jean Bretonnel, c'est le meilleur. Alors c'est rigolo parce que là il y a un choc de culture. Jusqu'à maintenant, vous avez fréquenté les Marseillais des pieds noirs, et là vous tombez sur un titi parisien.
Complètement, un monsieur haut en couleur, monsieur Jean Bretonnel. D'ailleurs, c'est un monsieur qui vous voyez ses boxeurs.
C'est incroyable, ça.
C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude. Et puis il voulait vraiment s'occuper. Il a vu tout de suite, il a détecté chez Louis des qualités intrinsèques hors du commun, et tout de suite il a voulu s'occuper de la carrière de Louis, évidemment.
Et vous, est-ce que c'est en le regardant que vous apprenez à s'occuper de boxeurs et à organiser des rencontres?
Ah, certainement. Bien sûr, je passais.
C'est lui votre professeur.
Oui, mais je passais des années et des années, assis sur le radiateur de la salle du Faubourg Saint-Denis. Et Louis s'entraînait avec les plus grands champions, que ce soit Jean-Claude Boutier, Roger Zamy, tous les champions de l'époque. Et j'étais là, je regardais, j'étais spectateur avant que de passer, à entraîner Louis véritablement, à être dans son coin, lorsqu'il combattait. Oui, j'ai beaucoup
appris. Mais votre idée dès le départ, c'est de prendre cette place aux côtés de Louis, d'être à la fois son manager, son entraîneur et l'organisateur de ses combats.
Ah ben, ça a été ce que mon père a véritablement créé.
Décidé pour vous.
C'est lui. Ah oui.
C'est-à-dire que c'est votre père qui a dit, c'est que tu vas t'occuper de ton frère.
Ah ben, mon père dictait tout. Il nous a incité à aller en classe le plus longtemps possible. Il a incité pour que je sois dans le coin de mon frère, que je m'occupe de mon frère, que je sois présent, qu'on ne tombe pas dans des pièges. Parce que lui a connu véritablement ses affres. Donc il ne voulait pas. Toutes les précautions voulues pour pas qu'on tombe dans des pièges, voilà.
Alors du coup, quand vous quittez Bretonnel, bon, vous dites, il prend 30%, c'est insupportable, il nous prend trop d'argent, etc. Mais en vérité, c'est parce que vous êtes prêt, à ce moment-là, à prendre la suite.
Il y a de ça, mais surtout, c'est que c'était nous qui faisions tout. Oui. Voilà, on allait s'entraîner chez Bretonnel, dans sa salle, certes, mais tout le reste, c'est nous qui le faisions. Trouver des sparring, s'entraîner, trouver les combats, les adversaires, et puis voilà, jusqu'à remplir les salles après, quand j'ai commencé, quand j'étais aux prémices de mes premières organisations, il fallait remplir les salles.
Alors vous prenez combien, vous, maintenant?
Je ne prends plus rien, je donne.
Vous donnez.
Je ne fais que donner, moi.
Vous êtes un bénévole de la boxe française.
On va dire ça comme ça, oui.
Non, mais par exemple, à Manchipour, vous lui avez pris combien, ou à Brahim Asloum?
Oh non, j'ai fait que travailler avec eux. Avec eux, parce qu'ils le méritaient. J'ai fait en sorte de guider leur carrière avec Louis. Louis en tant qu'entraîneur. Et puis moi en tant que promoteur. Mais ce qu'on a fait, c'est...
Vous preniez pas de pourcentage?
Mais non, puisque nous les payons, c'est nous qui les payons. C'est-à-dire que nous, on faisait rentrer des recettes d'argent.
Oui.
Et puis après, on payait, on respectait les contrats que nous avions avec eux. Et à partir de là, ce qu'il restait, voilà, peu ou prou, c'est ce qui nous revenait.
Alors quand Louis décide d'arrêter sa carrière, enfin moi je suis pas un spécialiste de boxe, j'ai pas suivi ça à l'époque, j'en ai pas souvenir. Je le découvre à travers le récit que vous en faites. On est un peu surpris, enfin j'ai été un peu surpris. Je me suis dit tiens, Louis refait le coup de son père, c'est-à-dire il se fait mal, il se fait de la peine, volontairement.
Oui. Oui.
Je me trompe?
Oui, oui. Ben surtout quand il s'est occupé de Brahim Asloum par exemple. Et il a pris Brahim Asloum avec lui au sortir des Jeux Olympiques de Sydney en l'an 2000. Et jusqu'à 2007, il s'est occupé de Brahim Asloum jusqu'à son championnat du monde professionnel.
À plein temps.
À plein temps. Et Brahim est devenu son fils spirituel. Faut dire qu'il y a
Pourquoi il arrête si tôt? Enfin, il vient de perdre.
Louis?
Oui, il vient de perdre son titre de champion d'Europe, mais enfin, il suffit qu'il le remette en jeu dans un an, et il peut le regagner.
Non, il venait de perdre son titre il venait de perdre la conquête mondiale. Ok.
Oui, mais faut le dire titre que mondial, Louis, pardon, oui, c'est ça.
Mais il faut dire que Louis, nous avions caché tout au long de sa carrière, les carences qu'il avait. Il avait des carences dont on ne pouvait pas parler à l'époque.
Qui étaient physiques.
Oui, des carences, il voyait pas bien. Ok. Faut se dire que Louis, d'un coin à l'autre, quand un avait été dans le coin rouge et le coin bleu, Louis voyait son adversaire trouble. Il fallait que le gong retentisse et qu'il se retrouve au milieu, au centre du ring, pour pouvoir voir son adversaire clairement, premièrement. Et deuxièmement, il avait une déficience au niveau de son pancréas, c'est que il diffusait immédiatement aux efforts, aux propres efforts, son sucre, il se vidait de son sucre et donc de son oxygène. C'est pour ça qu'il a adopté dans sa carrière professionnelle de 6 rounds, 8 rounds, 10 rounds, 12 rounds, 15 rounds, il a adopté une boxe attentive et comme il frappait terriblement, donc il attendait de façon à pas se démunir de tout ce sucre, de tout ce pancréas qui fonctionnait très mal pour pouvoir délivrer ses coups et gagner avant la limite, ce qu'il a fait beaucoup beaucoup de fois.
Ce monde-là, de cette boxe-là, il a disparu aujourd'hui?
Non, il existe toujours dans une autre époque.
Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est la médiatisation. Ça va très vite maintenant. Nous, à l'époque, c'était un coup de fil, mais ça a duré longtemps. Maintenant, c'est l'Internet, c'est une autre époque. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec.
Mais vous vivez avec.
Oui, on va dire, on est up to date, pour reprendre les questions américaines.
Ouais, si vous êtes up to date, alors tout va bien.
Voilà.
Merci beaucoup. Je renvoie à ce formidable livre que liront avec passion tous les gens qui s'intéressent à la boxe. Pieds noirs, points nus, de Babelwed à Las Vegas. Ça vient de sortir. C'est sorti il y a une petite semaine chez Flammarion et c'est donc disponible dans toutes les librairies. Merci beaucoup, Michel Agariès.
Merci à vous.
J'étais très heureux de passer ce moment avec vous.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.